Vous venez d'entendre Everyday Robot de Damon Albarn sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous voilà déjà arrivés à la dernière partie de Déclic et nous allons maintenant enfin parler du court-métrage en réalité virtuelle iPhilippe avec son réalisateur Pierre Zandrovitch.
Déclic, parce que le monde bouge.
Alors pour nos auditeurs qui ne savent pas ce qu'est la réalité virtuelle, je ne saurais que trop leur conseiller d'aller réécouter le podcast de notre émission de janvier qui était entièrement consacré à cette question. Mais en quelques mots, on va dire que, pour ne pas laisser certaines personnes dans le flou, que la réalité virtuelle, c'est quand on immerge quelqu'un à l'aide d'un casque ou d'un mobile dans un univers filmé ou reproduit à 360 degrés. Donc on peut vraiment regarder dans tous les sens et ça procure une liberté totalement nouvelle. Et donc justement, cette réalité virtuelle paraissait peut-être un passage un peu obligé pour faire un hommage à Philippe K. Dick, puisque c'est un thème qui revient très souvent chez lui. Donc Pierre Zandrovitch, vous avez réalisé ce projet-là. Est-ce que c'était votre premier projet en réalité virtuelle ?
Non, c'était pas le premier. C'est la première fiction, réellement. Avant ça, j'avais fait des essais, j'avais fait des tests avec mon associé Antoine, et on a fait quelques publicités avant ça. Mais c'est la première fiction, une vraie narration longue qui raconte une histoire en réalité virtuelle.
Et donc c'est encore un peu expérimental, on est encore dans la création des méthodes de tournage, ou vous avez déjà une méthode établie que là vous avez pu calquer pour ce court-métrage ?
En fait, on a avancé en même temps qu'on développait le projet. On a développé un système de workflow, enfin un workflow en fait, pour réussir à capturer un environnement à 360 degrés. Non seulement à 360 degrés, mais en plus en relief, parce que c'était un peu le défi du film, pour vraiment que ça soit réaliste pour le spectateur. Donc du coup, on a fait des tests pendant à peu près un an pour essayer de maîtriser tous les outils. Donc c'est assez artisanal pour le moment, il n'y a pas vraiment d'outils pour faire des films en réalité virtuelle. Donc on faisait du cinéma classique avant, et du coup on a récupéré un peu notre savoir-faire et on a essayé de le transformer pour faire de la réalité virtuelle cinématographique.
Alors on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est le scénario, on parle d'un scénario quand même en réalité virtuelle je pense, de ce court-métrage iPhilippe?
Alors c'est tiré d'un fait divers en fait qui a eu lieu en 2005. Philippe K. Dick est mort au début des années 80.
Ouais, 1983 je crois.
82, et en 2005, il y a deux ingénieurs aux États-Unis qui se sont lancés dans l'intelligence artificielle. Et le premier robot qu'ils ont créé était le double de Philippe K. Dick. Donc ils n'avaient pas assez d'argent pour faire tout le corps, ils ont fait que la tête. Donc il y avait une tête de l'androïde de Philippe K. Dick. Et assez vite, ça fait beaucoup de bruit sur Internet, parce que l'auteur qui parle des androïdes, qui tout d'un coup devient lui-même un androïde et ressuscité comme un androïde, ça a fait parler. Donc ils se sont fait contacter par Warner, pour faire la promo du film, justement, Scanner Darkly. Et donc, ils sont partis une sorte de press junket à travers les États-Unis avec la tête du robot. Et les journalistes faisaient la queue pour interviewer ce robot. Et c'était un robot dans lequel ils avaient mis tous les écrits de Philippe K. Dick. Et ils avaient développé une sorte d'algorithme qui était censé représenter la mémoire et l'intelligence de l'écrivain.
Comme s'ils avaient uploadé l'esprit de Philippe K. Dick dans une machine. Enfin, en tout cas, c'était la promesse marketing. Quoi.
C'est exactement ça. C'était la promesse marketing. Donc, ils ont fait des conférences, ils ont fait des présentations. Et au bout de 6 mois, David Hanson, qui se balade avec cette tête, est parti à Las Vegas pour faire une présentation chez Google. Et en arrivant à l'aéroport, il a attendu son sac sur le tapis roulant et le sac n'est jamais arrivé en fait. Et
donc,
sur Internet, il y a eu beaucoup de rumeurs sur le sujet en disant que c'était le FBI, que c'était le robot qui s'était échappé lui-même.
Bah, dans la grande lignée de la paranoïa kadikienne.
Ouais, c'est ça. Et encore aujourd'hui, il y a un site dédié sur Internet pour essayer de retrouver la tête de l'androïde de Philippe K. Dick.
D'accord. Donc le court-métrage propose donc de se mettre à la place de cet androïde, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'était pas de faire quelque chose de biographique sur Philippe K. Dick, mais plutôt de raconter l'histoire de ce robot qui s'appelle Phil. Donc on raconte l'histoire de ce robot qui, au bout d'un moment, commence à se poser des questions de savoir si lui-même n'est pas Philippe K. Dick.
D'accord. Alors du coup, ça, c'était le côté des créateurs, mais on va maintenant essayer de passer du côté un peu des utilisateurs, et on va tout de suite écouter le crash test de Christine Simon pour découvrir cette expérience du point de vue, justement, des utilisateurs. Christine, je t'en prie.
Oui, eh bien bonjour. Pierre, regarde-moi bien dans les yeux. Tu me vois bien ?
Ouais.
Bravo. Écoute, On va donc parler de réalité virtuelle et de qu'est-ce que c'est que de tester la réalité virtuelle et un film de 14 minutes qui raconte une histoire fort intéressante, Marfouat. Vous l'avez dit, la réalité virtuelle, ça se passe avec un casque, un masque même, hein, qu'on accroche sur sa tête normalement, mais qui coûte entre 600 et 1000 euros à l'heure où je parle. Et en vérité, pour moi, la réalité virtuelle, cher Pierre, c'est ceci, ce morceau de carton plié en quatre avec deux petites lentilles dedans dans lequel je vais coller mon téléphone portable sur lequel j'ai évidemment téléchargé Arte 360. Car je ne suis pas riche comme Mark Zuckerberg, tu sais, Pierre, j'ai 60 ans. Et quand j'étais à l'école, on disait riche comme Crésus, aujourd'hui on dit riche comme Zuckerberg. Bref. Comme je ne suis pas Zuckerberg, j'ai donc le Google Cardboard tout simplement. Alors, je me suis mise effectivement, grâce à ton film, dans la peau du clone de Philip K. Dick, de l'Android K. Dick. Ça, d'ailleurs, c'est bien mieux que de dire que j'ai regardé un film en 360 parce que j'étais vraiment dans la boîte et dans la tête. Et ça, c'était vraiment le point intéressant de ce film. Donc, avec mes lunettes de bigleuse, ma vieille canne, car je boite, cher Pierre.
Rajoute un petit peu, Christine.
Comment est-il possible de s'en sortir avec un cardboard ? Alors, comme je boite, que le téléphone s'est un peu cassé la figure dans le boîtier en carton, qu'en plus, il fallait mettre un casque sur les oreilles pour entendre le son correctement, parce que c'est quand même plus sympa. Bref, j'ai fini par mettre un bout de scotch supplémentaire pour que tout ça, ça tienne très bien. Alors, comme il est dit dans le film, et comme il est demandé à l'android de K. Dick, est-ce que j'ai des rêves, est-ce que je ressens des choses ? Alors, oui, Pierre, j'ai un rêve fondamental. Je rêve que l'on me greffe un casque dans mon cerveau pour pouvoir enfin tout voir à 360. J'ai aussi compris, grâce à ce superbe film que je conseille vraiment à tout le monde de regarder, même avec un cardboard, j'ai compris que la télé demain, dans la réalité, en réalité virtuelle, ce serait ça que sûrement le casque remplacerait peut-être mon écran de télé dans mon salon. En tout cas, merci Pierre pour cette belle histoire.
Donc merci Christine pour cette chronique. Donc on le voit, une réalité virtuelle qui est encore à plusieurs vitesses, on va dire, en fonction du dispositif avec lequel on peut le tester.
Ouais, en fait c'est vrai que nous on s'est tout de suite projeté en se disant, parce qu'on a découvert la réalité virtuelle avec des masques vraiment en plastique Oculus Rift, qui sont des masques assez confortables finalement, avec une résolution qui est pas encore géniale, mais qui va le devenir au fur et à mesure. Et on s'est tout de suite dit qu'on allait faire un projet qui pourrait être vu pendant un an et demi au moins, ou deux ans. Du coup, on est peut-être un peu en avance quelque part. Effectivement, Google a sorti cette solution qui est le cardboard, qui est un petit objet en carton qu'on peut construire soi-même, qui coûte 5 € et qui est un peu la réalité virtuelle cheap.
Donc c'est juste pour préciser pour nos auditeurs, c'est donc un boîtier avec deux espèces de lentilles en verre dans lequel on glisse son smartphone et on l'assemble comme ça sans aucun matériel et on peut expérimenter une version low-tech de la réalité virtuelle.
Exactement. Il y a mille façons d'acheter sur internet en fait ce cardboard. Voilà.
Ouais. Et d'ailleurs même Arte a fait des cardboards, Philippe K. Dick. Donc c'est une façon de toucher un peu du bout du doigt la réalité virtuelle. C'est pas encore ça vraiment. Nous le film, on l'a vraiment pensé pour les vraies masses de réalité virtuelle. Mais heureusement,
ça fait combien de personnes en France les vrais masques de réalité virtuelle?
Peut-être 4, mais c'est déjà pas mal. Non, beaucoup plus, je pense. Je n'ai pas les chiffres, mais en fait, ce qui est génial, c'est que Samsung a développé un masque qui coûte 90 €, donc c'est un peu plus accessible que le fameux masque qui coûte 700 €.
Ouais, voilà, je l'ai testé avec ce masque d'ailleurs, de Samsung.
Voilà,
c'était une bonne expérience.
Voilà, d'ailleurs, en ce moment, ce masque est offert si on achète le nouveau téléphone.
S7, ouais. Si on achète le Samsung.
Merci Oriane qui travaille pour Samsung. Donc,
si on achète la Surface
mais
Pro.
Mais ça reste intéressant de.
Oui, c'est clair.
Non, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure,
les
constructeurs de téléphones livrent avec le téléphone en fait un masque. Donc je pense que d'ici la fin de l'année, les gens seront un peu plus équipés qu'aujourd'hui.
D'accord, donc vous avez une perspective de long terme en fait pour la diffusion du film. Est-ce que vous avez déjà pu au niveau du scénario, est-ce que vous avez déjà pu avoir des retours de la personne, des personnes qui testaient votre court métrage, qui est un court métrage qui dure 14 minutes, c'est ça, à peu près.
Exactement.
Comment est-ce que les gens vivent l'expérience? Qu'est-ce qui en ressort? Est-ce qu'il y a des termes qui reviennent comme ça?
En fait, c'est une expérience. La réalité virtuelle en général, c'est quand même assez viscéral comme expérience. Et il y a des gens qui sont. J'ai eu toutes sortes de réactions différentes. Ce qui est assez intéressant, c'est que il y a des moments. Bon, par exemple, il y a une scène d'hôpital où on est dans le corps de Philip K. Dick qui est mourant. Les gens, il y en a certains qui sont très choqués de cette scène parce que tout d'un coup, ils se sentent mourir. Mais aussi, il y a des réactions. Il y a une scène sur une plage dans le film à un moment donné où le robot a une sorte de flashback de Philippe K. Dick où il est sur une plage avec une femme. Et les gens sont, me disent tous qu'ils sont très nostalgiques quand ils vivent cette scène. Donc je ne sais pas à quoi ça renvoie. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai juste l'impression que la réalité virtuelle renvoie plutôt à des souvenirs et à des moments passés plutôt qu'à un film qu'on regarde, en fait.
Moi, mais pourquoi elle est blonde, la fille sur la plage ?
Elle est blonde parce qu'en fait, c'est pas réellement un souvenir de Philippe K. Dick. C'est réellement un bug de la machine qui se retrouve en face quand vous verrez le film. En fait, il croise une femme qui s'appelle Clarisse à un moment donné dans une conférence et ça lui fait vriller.
Il la revoit à l'hôpital, il la voit sur la plage, etc. Voilà, c'est vrai que c'est le terme qui ressort le plus, je trouve, quand on voit le court-métrage, quand on a la chance de le tester dans les bonnes conditions, c'est le fait que c'est des sensations. En fait, toutes les scènes dans lesquelles on va passer nous procurent des sensations, et j'ai l'impression que vous avez plus voulu insister sur ce côté un peu émotionnel que sur le côté proprement narratif, avec un début, un milieu, une fin très cadré pour privilégier l'expérience nouvelle. Quoi.
C'est un peu la chance qu'on a eue aussi avec Arte, c'est qu'avec Marianne Lévy-Leblond, qui est la coproductrice avec nous sur le film, quand on discutait avec elle du projet, elle nous a vraiment poussé aussi beaucoup là-dedans. C'est-à-dire pas essayer de coller les codes du cinéma dans une expérience de réalité virtuelle, c'est une nouvelle façon d'écrire des films. Donc du coup, c'est vrai que ça peut prendre une tournure un peu expérimentale encore, mais c'est vrai que l'idée, c'est que les gens sortent pas forcément en ayant compris quelque chose, mais en tout cas ayant ressenti des choses. Et puis ça leur parle quand même, en fait.
Ouais, de ce côté-là, c'est très réussi. Tu parlais justement à l'instant d'écriture. Quand vous écrivez le scénario de ce court-métrage, est-ce que vous écrivez à 360 degrés, entre guillemets, ou est-ce que vous écrivez avec quand même un champ de 180 où il y a une scène qui se passe à un endroit et autour, c'est potentiellement pour les curieux, mais globalement...
En fait, dans la vie, on est souvent à 180 degrés. Mmh. Enfin, là, en l'occurrence, derrière moi, il y a un mur. Donc souvent, derrière nous, dans le film, il n'y a pas énormément de choses. En revanche, je peux me retourner et m'apercevoir que je suis immergé dans une pièce. Donc ça nous permet juste de nous faire une projection mentale de l'environnement dans lequel on est. Mais on ne fait pas forcément toujours intervenir des éléments qui se passent derrière. Donc effectivement, le scénario est plutôt écrit à 180 degrés.
D'accord.
14 minutes, c'est pas le max pour un truc en réalité virtuelle ? Parce qu'avec un masque sur la tête et tout ça...
Je pense, effectivement. Actuellement, en fait, le masque, le vrai problème actuellement du masque, c'est qu'il est un peu lourd. Donc, après 14 ou 15 minutes, ça peut devenir un peu désagréable.
Après, c'est une question d'habitude, peut-être.
Je viens de tester à Montréal la semaine dernière, pour la première fois, une expérience de 50 minutes dans une exposition à la Bibliothèque nationale de Montréal, qui s'appelle La Bibliothèque la nuit, et qui est absolument géniale et en plus très confortable. C'est la première fois que je tenais autant.
Assise ou debout? Assise.
Situation d'exposition optimale. C'est une visite en 10 chapitres, donc c'est aussi des moments courts, mais chaque fois on garde le casque sur la tête de 10 bibliothèques du monde.
D'accord. Donc une expérience de 50 minutes, là on a une expérience de 14 minutes, peut-être que c'est justement, vu que c'est un nouveau média, il va justement trouver son vocabulaire et trouver ses formats en cours de route, et justement même dans l'écriture on voit que vous avez essayé aussi de sortir des, pas des carcans, mais on va dire des modèles hérités du cinéma, parce que c'est souvent, on va dire, ce qui se passe avec les nouvelles technologies, c'est qu'elles copient des anciens vocabulaires, des anciennes grammaires pour mieux se faire accepter, mais en fait on s'aperçoit bien souvent que c'est quand elles arrivent à trouver leur propre expression qu'elles peuvent donner toute leur dimension et se révéler pleinement au monde. Je vous remercie pour d'avoir participé à cette émission. Je le rappelle, il y a Californium qui est accessible sur le site d'Arte et sur Steam. On a iPhilippe qu'on peut voir sur le site d'Arte également. Vous pourrez retrouver tous les liens mentionnés pendant l'émission sur la page Facebook de Déclic et sur notre compte Twitter @DéclicLeMag, et le podcast sera quant à lui disponible dès la semaine prochaine sur RadioCampusParis.org. Et oui, un dernier mot.
Et le documentaire Les Mondes de Philippe K. Dick.
Et Les Mondes de Philippe K. Dick,
a été diffusé le 2 mars et est en replay, sur Arte plus 7 en ce moment.
Ouais, en vidéo à la demande.
Oui, enfin c'est gratuit.
Ouais, d'accord. Ah bon ? D'accord.
Arte plus 7 est gratuit, donc jusqu'au 9 mars.
Ok, très bien, jusqu'au 9 mars. Donc merci encore à Thibaut Decordet et Pierre Zandrovitch d'avoir accepté notre invitation. Merci à Marine de Saint-Seine, Rémi Reboulet pour le pas de côté, Oriane Urard pour le fil d'Oriane et Christine Simon pour son crash test. Aujourd'hui, à la réalisation complexe, nous avions l'irremplaçable humanoïde Tiffany Battistel en chair et en os. Et nous, quant à nous, nous retrouverons le dimanche 10 avril pour le 7e numéro de Déclic. En attendant, passez une bonne soirée sur Radio Campus Paris.